Et vous avec X.
Il a peut-être été le plus important marchand d'armes privé au monde, Jacques Monsieur, citoyen belge, résident un temps en France, mais Monsieur, aujourd'hui emprisonné, n'a-t-il été qu'un marchand de mort ou bien un espion travaillant pour les services occidentaux ?
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. France Inter,
la différence.
Il est tout juste 15h04, tout de suite, là-bas, si j'y suis, pardon, avec Daniel Mermet.
Nous venons d'écouter l'émission de Daniel Mermet d'aujourd'hui. On veut le féliciter, c'était formidable. Celle d'aujourd'hui où Lagardère a montré comment on militait et l'espoir qu'on pouvait donner pour un changement de société. Merci beaucoup. Bravo et bravo encore.
Ça fait du bien de commencer une journée en écoutant quelqu'un comme Robert Badinter. Moi, ça me rappelle que nous avons des bons hommes politiques en France. Même si ces derniers temps, voire ces dernières années, on n'a pas eu l'occasion beaucoup de le vérifier à l'écoute, ça fait du bien de se rappeler que nous en avons des bons. Si dans le renouvellement de la classe politique, il y en avait quelques-uns, plutôt que de regarder leur nombril ou autre, faisaient l'effort de se hisser au niveau de gens comme Badinter, je crois que ça serait un bien pour tous ceux qui vivent en France. Au-delà de ceux qui habitent et qui sont français, pour tous ceux qui vivent en France. Ok ? Merci à tous et bonne journée.
Je vois qu'après l'hécatombe des suicides chez France Télécom, j'ai pris la semaine dernière sur France Inter qu'il y a eu deux suicides au travail aussi dans une société de transport routier. Et depuis, on n'en a plus parlé. Alors je pense qu'on va attendre que peut-être qu'il y ait une hécatombe aussi là dans le transport routier, malgré que je pense qu'il doit y avoir déjà beaucoup de cas, parce que le stress dans ce métier, il est permanent. Et malheureusement, si aujourd'hui on a un stress permanent et difficile, c'est bien à cause d'une réglementation incompréhensible et inadmissible du gouvernement, voire de tous les gouvernements européens, qui nous imposent déjà un repos de 11 heures la nuit. Alors j'aimerais que tu me dises ce que tu aimes pas, comment tu réagirais si on t'interdirait de rouler 11 heures la nuit pour aller faire ton travail, quoi. Donc ces heures qu'on nous interdit de rouler la nuit, donc il nous manque dans la journée. Alors il faut qu'on livre le client, il faut qu'on fasse notre travail, il faut qu'on rentre chez nous le week-end, chose qui devient de plus en plus difficile. Donc il y a beaucoup de routiers qui, à cause de cette réglementation, ne peuvent pas passer même le week-end avec leurs enfants. Donc tu vois, c'est quelque chose de très difficile. Et je suis un peu déçu qu'on n'en parle pas un peu plus justement, quoi, comme on a parlé de France Télécom. Merci Daniel, je te passe une bonne journée, au revoir.
Ouais, salut à tous. Bon, ben comme en ce moment, on est en plein moment de propagande, donc après la propagande du mur et la propagande qui nous traîne au cul depuis pas mal de temps sur les vaccins, Sarko, qui soi-disant, sous prétexte de s'adresser aux agriculteurs, fait un débat sur l'identité nationale, ben nous, donc, ce soir, à 19h, chez Pascal et Nico, Latitude, il y aura le repère de là-bas, si j'y suis, bien entendu, en présence de Charles Pasqua, Jacques Chirac, Obama, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, il y aura aussi John Wayne et Noam Chomsky. Allez, gros bisous, 19h, à tout à l'heure. Tchao, vive, portez-vous bien.
Bonjour, monsieur Mermet, bonjour les AMG. Monsieur, vous m'avez beaucoup fait rire hier. Parce que vous avez parlé des ganaches médaillées. Je me suis sentie tout à fait concernée, car mon Dieu, j'ai 92 ans. Alors, être appelé ganache, bon, après tout, c'est acceptable. D'ailleurs, il n'y a que les imbéciles qui sont susceptibles. Et puis, je suis médaillée, figurez-vous. Parce que, à la déclaration de guerre en 1939, je me suis engagée immédiatement à la Croix-Rouge. Évidemment, j'ai vécu, comme toutes mes collègues, des moments difficiles. Je ne parle pas des moments difficiles de nos blessés. Toujours est-il que je suis maintenant titulaire de la médaille de vermeil de la Croix-Rouge française. Voilà pourquoi je suis une ganache médaillée, amicalement. Marie-Louise.
Merci Marie-Louise pour cette remarque aimable, mais évidemment je ne pensais pas à vous. C'est impossible de penser à quelqu'un comme vous, aussi extraordinaire que vous, aussi drôle que vous. Je pensais à ces épouvantables militaires, les ganaches galonnés. On a regardé, ganache en vérité, c'est un mot qui a plusieurs sens. Moi je l'entendais comme un vieux cheval, une ganache. Et alors voilà, que ganache, c'est la partie de la mâchoire inférieure du cheval. Et effectivement, ça veut dire, par glissement de sens, vieille ganache, ça veut dire une personne âgée et stupide, ce qui n'est évidemment pas votre cas, et vous venez de le démontrer. Merci à tous, merci à vous pour ces messages. On reçoit beaucoup de messages, évidemment, des repères de là-bas si j'y suis. Je voudrais rappeler que les repères de là-bas si j'y suis doivent être des endroits, enfin c'est ce qu'on a souhaité, c'est ce qu'on continue de souhaiter, des endroits ouverts, où tout le monde peut venir. On a la chance extraordinaire sur France Inter de s'adresser à un public varié, un vrai grand public, et il faut que tous, chacun, n'importe qui, puisse venir dans ces repères, et non pas que ces repères se replient sur des petits groupes militants. Voilà, ça, on le souhaite pas vraiment, mais au contraire, que ce soit ouvert, qu'on puisse débattre et qu'on ait... voilà, la bataille des idées doit reprendre, continuer de plus belle dans ce beau pays. Et puis là-dessus, ben, je remercie Jean Gerdou, un auditeur avec qui on s'est frité hier par téléphone. Ça s'est bien arrangé parce qu'il m'a envoyé une longue lettre très civilisée aujourd'hui. Et il m'a promis une suite. Alors, vous avez vu que notre ancien président de la République, Jacques Chirac, est rattrapé par l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, et qu'il y aura dans les semaines qui viennent, ou l'an prochain, on le suppose, et ça semble tout à fait vraisemblable, un procès où il figurera, notre ex-président de la République, sur le banc des accusés. Et par ailleurs, on voit aussi notre actuel président de la République, un camelot absolument de plus en plus formidable, un fanfaron qui était le matin du 9 novembre à Berlin, alors même que personne ne pouvait imaginer que le mur de Berlin en question allait tomber. Alors vous avez vu évidemment sur internet toutes les révélations extraordinaires. Il était là à Yalta, c'est lui qui a découvert le vaccin contre la rage, il était dans la photo de Doineau à Paris, etc. Il était partout, absolument partout. Mais il n'est pas le seul à être toujours sur la photo. Il y a encore plus fort, il y a ceux qui sont toujours là avant la photo. Et c'est le cas souvent de là-bas. Si j'y suis, à qui aujourd'hui nous allons rendre hommage. Pourquoi ? Parce que six ans avant le procès de Jacques Chirac, là-bas, si j'y suis, faisait le procès de Jacques Chirac. Et oui, 6 ans avant. C'est encore plus fort que cet exploit de notre président de la République ce matin-là. À Berlin, vous allez en savoir plus, vous allez tout savoir sur ce procès, 6 ans à l'avance, d'ici à 16h, sur France Inter, dans la base où j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, à qui nous devons rendre hommage, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le deuxième repère bruxellois se déroulera le 19 novembre à 19h, au bar Kafka, 21 rue des Poissonniers, à 1000 Bruxelles, métro Bourse. Le thème de notre rencontre sera « Pensée globale, manger local ». On vous espère donc nombreux le 19 à 19h.
Salut Daniel et salut les AMG, c'est Baïja de Bordeaux. Petite et modeste contribution au débat sur l'identité nationale en réaction à ce que vient de dire le président de la République française, à savoir que la burqa n'a pas sa place en France. Moi, ce que j'aimerais plutôt qu'il dise, c'est que l'État et les services publics ont leur place dans les quartiers, délaissés à tous les extrémistes de tous les bords. Donc j'en veux pour preuve effectivement... ce qu'on voit actuellement dans certains quartiers et certaines banlieues, avec des femmes qui se voilent complètement pour faire part de leurs différences et faire part finalement de leur existence. Elles ne cherchent pas à se cacher derrière ce voile intégral, elles cherchent au contraire à dire ben, « on fait partie ». De la société française. Voilà, ça vous déplaît peut-être, mais nous aussi, on est français. Donc il y en a un petit peu assez de ce débat sur l'identité nationale, parce que à mon âge, j'en ai un peu marre qu'on me pose la question de savoir pourquoi je suis française, parce que je suis française, point. Ça va de pair avec, à chaque fois que l'on doit renouveler nos papiers d'identité française, on soit obligé de prouver cette fameuse identité. Donc moi, par exemple, dès que je dois renouveler une carte d'identité ou un passeport, il faut que j'apporte mon certificat de nationalité que je dois garder précieusement et surtout ne jamais perdre, parce que sinon, ça remettra en cause ma nationalité française. Donc ça, c'est valable pour tous les enfants d'immigrés. Donc notre cher président a aussi dit que vouloir profiter de la sécurité sociale, c'est aussi répondre à des droits. Mais je rigole.
Oui, bonjour tout le monde. Donc c'est Marc à Bérien. Donc j'appelle pour inviter tous ceux qui le souhaitent au prochain repère là-bas si j'y suis, qui aura lieu vendredi 13. Facile à souvenir, vendredi 13 à partir de 19h30 au café librairie L'Autre Rive à Bérien, en centre-Bretagne. Alors on discutera dans le cadre de la réflexion qu'on est en train de mener sur comment s'extirper un peu, comment sortir du schéma classique, comment sortir du système bancaire traditionnel. Donc on aura un représentant de la NEF qui viendra discuter avec nous, présenter un peu leur philosophie. Quelqu'un des Cigales aussi normalement qui viendra nous parler de possibilités de s'organiser. Et puis aussi on nous parlera d'une association qui achète des terres pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer dans des conditions correctes. Voilà, donc et puis surtout ne lâchez rien, il fait beau, les petits oiseaux chantent et l'hiver arrive. Allez, on vous embrasse, ciao.
Oui, bonjour à tous les AMG, bonjour d'Auvergne, pour vous annoncer le repère de Courpierre pour vendredi 13 novembre, 18h30, à la pizzeria, au bar Pizzeria Chezico, avenue de la Gare à Courpierre. On parlera de l'économie solidaire avec Christophe Gobi, qui est rédacteur à la revue Silence. L'économie solidaire, c'était le sujet de son numéro d'octobre. À bientôt, salut.
Salut, c'est Daniel Mermès, c'est là-bas si j'y suis, 6 ans avant le procès de JC.
Flight number 2, arriving from New York.
Monsieur Chirac Jacques. Contre ministère public. Faites entrer l'accusé.
Oui, monsieur le président. Monsieur Jacques Chirac est absent et la défense a quelques observations à formuler quant à son absence.
Développez.
Oui, monsieur le président, messieurs les conseillers, messieurs de la cour, vous semblez étonné de l'absence de monsieur Chirac. Sauf qu'une analyse exhaustive de la procédure m'amène à affirmer aujourd'hui, sans la moindre marge d'erreur, que M. Jacques Chirac n'a pas été cité à comparaître à votre audience. Pas de citation, donc pas de saisine, donc pas de cour, donc pas de procès. Bref, 1, vous n'êtes pas saisi. 2, vous ne pouvez pas être saisi. 3, vous n'avez même pas la légitimité de la vox populi, puisque je rappelle que monsieur le président a été élu de mémoire à 82%. Donc je résumerai, vive le code pénal, vive la France et vive la République.
Très bien, merci maître. Madame le procureur, avez-vous des observations?
Maître, vous êtes volubile, c'est votre métier, vous êtes payé pour. Je suis quand même étonnée que monsieur le président soit absent, puisqu'il a quand même dit, devant la réunion des préfets en 2001, beaucoup d'infractions ne sont même plus déclarées, car quand elles le sont, elles échappent de plus en plus aux poursuites. Il est donc l'exemple même, et il illustre bien cette phrase. Nous dirons donc que le président, soit il a peur, soit, et je le cite, il aura dit dans votre cabinet, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre.
Très bien. Après consultation de mes assesseurs, la Cour décide courageusement que l'incident est joint au fond. Il sera donc statué sur votre demande à l'issue du présent procès et nous allons entendre le premier témoin dans la première affaire, l'affaire des frais de bouche. Alors le témoin est Monsieur Bertrand Toré. Est-ce que le témoin peut venir jusqu'à la barre? Alors, monsieur Bertrand Toré, vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Votre profession est restaurateur.
Je confirme.
Je rappelle brièvement les faits. Une enquête de l'inspection de la ville de Paris révèle que lorsqu'il habitait à l'hôtel de ville de Paris, le couple Chirac a dépensé pour 4400 francs par jour de nourriture variée, vin non compris. Il s'agit de la consommation personnelle de monsieur et de madame Chirac et non de leurs frais de représentation. Une plainte a été déposée par les services fiscaux. Les juges d'instruction soupçonnent une affaire de fausse facture. Alors voilà, vous étiez le cuisinier personnel de monsieur Chirac, chargé de faire les courses et les dépenses de bouche. Entre 1987 et 1995, les dépenses alimentaires pour l'appartement des Chirac s'élèvent à 14,08 millions de francs. Et c'est vous qui aviez la charge de ces dépenses. Alors expliquez-nous comment vous y preniez, comment l'argent entrait et sortait de votre cassette. Voici cette cassette. Elle est absolument vide, hormis quelques punaises. Éclairez la cour, monsieur Toré.
Ah, moi, je sais pas, moi, où passer l'argent.
Monsieur Toré, pour le seul réveillon du 31 décembre 1994, toujours selon cette enquête de l'inspection de la ville de Paris, pour ce réveillon, la note s'élève à 142 159 francs, vin et cigares non compris.
Oui, c'est moi qui ai fait à dîner ce soir-là. Donc
pour 142 159 francs.
Jamais j'ai fait à manger pour 142 500 francs, c'est pas possible.
Alors vous mettez en doute l'enquête de l'inspection de la ville de Paris?
Ah non, parce que je mets pas en doute. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, jamais personne ne peut manger 142 500 francs en un repas. Je veux dire, effectivement, je vais pas vous faire la preuve que c'est impossible.
Quelle relation vous avez gardée avec les Chirac?
Ah, moi, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai jamais eu d'employé, d'employeur d'aussi bonne qualité. Je vais vous dire, effectivement, 10 ans après, ils m'envoient encore leur vue. Pardon ?
Continuez, monsieur Toré.
Ces gens m'envoient encore leur vœu, prennent soin.
Et vous, monsieur Toré, est-ce que vous étiez attentif à ce qui s'est passé avec votre caisse ?
Je veux dire, effectivement, madame, elle a perdu 10 kilos avec moi. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, je pense que c'était le rêve de sa vie. Donc,
À 4000 francs par jour.
Il y a un marchand de légumes. Installé vers la Bastille, si mes renseignements sont bons, qui a produit des factures pour 200 000 francs de factures.
Ah si, je suis désolé, ce monsieur m'a vendu des légumes.
Oui, mais dans quelle quantité, dans quelle proportion?
Je veux dire, le potage de légumes de madame. Pourquoi? Je veux dire, effectivement, c'est-à-dire un poireau de tomate, mais pas grand-chose de plus.
Bertrand Toré, merci beaucoup. Vous nous remettez cette cassette. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder l'affaire suivante. L'affaire de l'imprimerie Sempap. Le témoin est monsieur Mordilla Gérard. Est-ce que le témoin veut bien venir jusqu'à la barre? Donc, vous êtes directeur de société, vous êtes militaire en retraite.
Affirmatif.
Vous êtes mis en examen complice de détournement de fonds publics.
Affirmatif.
Les faits, les voici. Plainte déposée pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Affaire instruite par le juge Ribrol. La société concernée est la SEMPAP, Société d'économie parisienne de prestations, chargée d'assurer les travaux d'imprimerie de la ville de Paris.
Affirmatif.
Les factures payées par la ville de Paris auraient été, durant 9 ans, gonflées de 25 à 40%.
Je l'ignore.
Période concernée de 1986 à 1995, c'est-à-dire pas tout à fait 10 ans. Argent évaporé entre 28 et 87 millions d'euros, selon les estimations, donc entre 200 et 500 millions de francs. Alors, monsieur Mordilla, expliquez-nous. On sait que l'imprimerie pour la ville de Paris est un marché considérable et il existait une régie municipale.
Ah oui, il existait une régie municipale avant. Mais quand monsieur Chirac a été élu maire de Paris, ce n'était plus possible. Comprenez, c'était une sorte de repère de socialo-communiste sous la coupe du livre CGT. Donc, on m'a chargé de faire le ménage, c'est ce que j'ai fait.
Donc, cette régie a été fermée, et puis s'est ouverte cette société d'économie mixte, la SEMPAP.
Eh bien oui, la politique du maire de Paris était de favoriser l'entreprise privée. Et donc, nous avons créé la SEMPAP.
Avec combien de salariés ?
Combien ? Mais un seul ? Moi ? Bien avant, il y en avait trop. Vous savez, hein, les cocos, il faut toujours être quatre pour planter un clou.
Et comment se fait-il que les frais aient augmenté dans de telles proportions alors que vous étiez le seul employé ?
Ah mais parce que je faisais du travail de qualité. Avant, c'était salopé. Après moi, non, c'était...
Combien de sociétés il y avait derrière vous ?
Eh bien, nous avons été amenés, dans le cadre de développement de l'entreprise, à créer, je ne sais pas, 20 ou 23 sociétés.
Avec combien d'ouvriers chaque fois ?
Ah, énormément d'ouvriers, mais ceux-là, je ne les voyais pas.
Il y avait chaque fois un directeur dans un bureau avec une boîte aux lettres et un téléphone.
Pour diriger, il me faut simplement ça, un téléphone et un bureau.
Il n'y avait pas votre épouse aussi comme directrice d'une de ces entreprises ?
Madame Monique Mordillat, parmi les gérantes de ces sociétés, effectivement. Monique Mordillat.
Ma femme était parfaitement compétente pour gérer cette société. Vous savez, la compétence n'a pas de famille. La compétence, c'est la compétence. La compétence n'a pas d'intérêt. Donc, il fallait s'adresser à nos amis les plus proches, comme me disait M. Pendreau. Adressez-vous à ceux qui sont avec nous. Donc, je me suis adressé à ma femme, à mon fils, à mon gendre. Enfin, voilà.
Vous avez un chromosome de direction, M. Mordillat.
Je suis un militaire, madame. J'obéis.
Est-ce que vous procédiez à des appels d'offres, M. Mordillat ?
Je ne connais pas l'appel d'offres. Je connais éventuellement l'appel aux couleurs, mais c'est tout. Moi, je suis un donneur d'ordres. Je donnais des ordres, on m'obéissait. Pardon, on exécutait mes ordres.
Alors, parmi les sociétés que vous avez créées, il y en a qui s'appelaient Paracom, Copama. Quelles étaient les vocations de ces sociétés ?
Ah bien, c'était des sociétés d'imprimerie. Paracom, ça veut dire paracommando. Et Copama, bah, c'est tout simplement commando marine parachutiste. Ça va de soi, non ?
Et l'imprimerie dans tout ça, M. Mordillat ?
Mais l'imprimerie, c'était une mission, l'imprimerie. Il fallait se débarrasser des cocos et de la CGT.
Oui, ça c'est votre excuse.
Ah non, c'était mon devoir. C'était mon devoir.
Vous deviez rendre des comptes et surtout de l'argent à qui ?
L'argent ne comptait pas. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait le drapeau et c'est tout.
Alors, il y a tout de même eu deux rapports de l'inspection générale de la ville de Paris mettant en garde M. Chirac, maire de Paris, sur vos pratiques et sur vos méthodes.
Monsieur le Président, si vous me permettez, je crois que notre société se divise en deux parties. Il y a d'un côté les fonctionnaires et de l'autre côté ceux qui travaillent. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent. Les fonctionnaires qui n'ont rien d'autre à faire qu'être fonctionnaires, font des rapports. Alors, nécessairement, ils ont fait des rapports, ça ne m'a pas empêché de travailler.
Très bien, la défense.
On remarque qu'il y avait là un marché qui a été régulièrement attribué et des fonctions d'imprimerie qui ont été tout à fait légitimement remplies. Je constate que l'accusation, malgré ses talents et sa véhémence, ne sort pas de là, et j'ai presque du mal à comprendre pourquoi ce témoin a été cité.
J'ai aussi beaucoup de mal à comprendre ma présence ici, en tant que militaire et en tant qu'imprimeur.
Madame le procureur ?
Tout non. Ça ne nous dit toujours pas où sont passés les 87 millions d'euros que vous avez quand même encaissés.
Écoutez, ne me parlez pas en euros. D'abord, je n'y comprends rien. Ensuite, je suis contre. Alors...
Merci, monsieur Mordillat. Alors, nous allons aborder l'affaire suivante. L'affaire du terrain de Bitti. Alors, on va demander au témoin, monsieur Maurice Limrac, de bien vouloir venir jusqu'à la barre.
Bonjour, la France.
Monsieur Limrac, Maurice.
Maurice, oui, c'est moi.
Demeurant à Saran, en Corrèze.
Oui.
Fils de monsieur Jean Limrac.
Jean, mon pauvre père.
Celui-là même qui a vendu le terrain à la fondation Claude Pompidou.
C'est exact, oui.
Très bien, voici les faits.
Je vous écoute, monsieur le président.
Chirac Jacques est accusé d'avoir usé de son influence pour faire acheter par la fondation Claude Pompidou un terrain situé près de son château de Bitti, commune de Saran, département de Corrèze. Cet achat avait pour but de geler cette parcelle, de s'assurer qu'aucune construction ne viendrait troubler le repos et la tranquillité des époux Chirac.
Je corrobore.
L'affaire s'est passée en 1978, alors que Jacques Chirac était maire de Paris.
C'est exact, et je tiens à préciser que j'ai pas voté pour Chirac. C'est à joindre au dossier.
Depuis 1969, les époux Chirac sont propriétaires du château de Bity, à Saran, département de la Corrèze. Alors, est-ce que les Chirac viennent souvent?
Jamais. Ils ont pu y aller. Mais ils ont été quand même souvent. Hein. Mais maintenant, Madame Chirac, elle aime pas trop. Puis quand elle va à Saran, elle va à l'hôtel, quoi. Comme les pauvres Français, quoi, qui n'ont pas les moyens.
Bien, alors, Monsieur Limrac, on va en venir à l'affaire du terrain de Bity. En 1978, Monsieur Chirac, Jacques, apprend que votre père...
Oh, il y a mon pauvre père qui en va dire à Monsieur Chirac, qui était en vacances à ce moment-là, qui dit, oh, ben, on va construire une belle colonie de vacances pour les pauvres gars de la banlieue. Eh ben, vous savez ce qu'il a dit, le Chirac? Il a dit, oh, ben, faut pas laisser faire ça. Si ça continue, ils vont nous construire une mosquée. Ah, ça, c'est vrai, ça, je vais vous dire que c'est vrai. C'est inversé au dossier. Et il a tout fait pour racheter le terrain de mon pauvre père, qui aujourd'hui est décédé, hein, faut bien le dire. Hein. Il a dit, votre prix sera le mien, de toute façon, c'est pas moi qui paye, il nous a dit. Eh ben, alors, pour un terrain qui valait à peu près dans les 60 000 francs, mais alors, vraiment, alors, en payant très cher, hein, bon, ben, on a obtenu quand même 500 000. Hein.
En 78.
En 78, 500 000 francs. Eh, il n'y a pas de problème, hein, il paye le prix,
qui a acheté ce terrain, monsieur Limrac?
Ah ben, c'est pour Chirac, hein, c'est sûr, hein, c'est pour Chirac. Hein,
c'est qui, monsieur?
Il dépense jamais son argent, ça rentre, mais ça sort jamais. Hein. Alors, il s'est dit, je vais faire cracher la Claude Pompidou, là. La fondation Claude Pompidou, c'est pour les. Et les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, puis les handicapés, comme vous. Alors, comme elle n'avait pas d'argent non plus, la Claude Pompidou, comment qu'il a fait le Jaco? Comme il était maire de Paris, il a fait voter une subvention de 500 000 francs de la mairie de Paris pour la caisse de la fondation
Monsieur
Pompidou
Limrac,
qui allait acheter le terrain. De Bity, est-ce que vous
et
avez
compris? Et qui était le trésorier de la fondation Claude Pompidou?
Eh bien, je vais vous le donner en mille, le trésorier coup de théâtre, c'était un dénommé Jacques Chirac. Et le secrétaire général, Jacques Toubon.
Merci, monsieur Limrac. Dossier suivant, les emplois fictifs. Monsieur Udiani Michel. Vous êtes né le 18 juin 1964 à Ajaccio.
Ouais.
Fonctionnaire municipal.
Employé municipal, monsieur le président.
Monsieur Udiani Michel, je vous demandais de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure.
Si c'est la droite, je veux bien. Je jure.
Bien. Alors, dans l'affaire des emplois fictifs, Monsieur Jacques Chirac est accusé d'avoir usé de son influence pour faire employer par la ville de Paris des personnes travaillant pour le RPR. Monsieur Udiani, vous êtes puériculteur dans une crèche du 5e arrondissement. On peut vous demander quel a été votre parcours professionnel?
Bien sûr, monsieur le président. En 82, j'ai commencé mon service militaire à la gendarmerie. Donc jusqu'en 86.
Vous avez redoublé, monsieur Udiani.
Attention, j'ai gardé des copains chez les gendarmes, quand même. Hein. Donc après, en 86, belle année. Donc je suis devenu gendarme d'élite pour la protection rapprochée du couple Chirac. En 89, je suis devenu prétriculteur. Prétriculteur dans une crèche du 5e arrondissement, comme monsieur le président l'a juste dit.
C'est quoi la périculture pour vous?
C'est un petit peu la sécurité très jeune maintenant, parce que très jeune, il délinque maintenant. Hein. Je leur apprends aux enfants plein de trucs, comme reconnaître la physionomie. Je leur apprends à savoir d'où viennent les tirs, à reconnaître...
Monsieur Udiani, sur plusieurs photos publiées dans des journaux versés au dossier, on vous voit à plusieurs reprises accompagner le couple Chirac dans de nombreux voyages. pour la seule année 1995 aux États-Unis pendant 10 jours, à La Réunion pendant 8 jours, à la Martinique et à la Guadeloupe pendant 12 jours, en Pologne pendant 3 jours, en Espagne pendant 4 jours, 4 fois en Allemagne, au total 17 jours. Et il est noté que vous n'avez pas été une seule fois absent de votre travail. Éclairez la cour.
Je ne comprends pas, c'est de la diffamation photographique.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre salaire comme puériculteur?
Approximativement.
Oui, oui, oui.
À peu près 6500 euros.
Très bien.
Je comprends pas ce que je fais là, hein. Je comprends pas. C'est quoi l'emploi fictif?
Non, mais la défense ne comprend pas non plus pourquoi vous êtes là, monsieur. Vous semblez présenter toutes les qualités pour vous occuper des enfants. Et moi, ce côté éducatif musclé, j'avoue que ça m'a convaincu. Hein.
J'ajouterais que, ayant des enfants et des jeunes garçons, ils seraient ravis, absolument ravis, d'avoir un éducateur comme vous qui leur apprendrait le tir et la visée, la façon de se protéger, la façon d'attaquer. Non. Et je crois qu'il faut qu'il y ait plus de puériculteurs comme vous. Je vous remercie, monsieur.
Grâce à Sarkozy, la sécurité fait son retour dans ce pays. J'en suis ravi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ces messieurs dames. Voilà.
Très bien. Monsieur Udiani, on vous remercie. La Cour souhaiterait que soit dressé un portrait psychologique de l'accusé. Aussi, nous faisons appel au docteur Letellier, qui va bien vouloir nous rejoindre. Docteur Letellier, qu'est-ce que vous avez à déclarer à la Cour?
Tout d'abord, je voudrais rappeler que le président Chirac est le fils unique dans une famille de 1 enfant. Mais, cas particulier, et c'est important pour comprendre sa personnalité, il est en fait, et c'est dramatique, le second enfant, puisque avant lui, il y a eu une petite fille qui s'appelait Jacqueline. Donc nous avons ce qu'on appelle en psychanalyse le phénomène de Lazare. Il est le deuxième enfant après une petite fille disparue. Comme c'est le deuxième enfant après une petite fille disparue, toute l'affection de sa mère s'est reportée sur lui, et elle le définissait d'ailleurs comme l'enfant du miracle. C'est important de comprendre ceci pour comprendre le reste. L'enfant du miracle, c'est un enfant qu'on choisit. Un enfant qui rentre de l'école, et lorsqu'il rentre de l'école, sa mère a mis sur la table de la cuisine une petite sucette dont elle a insisté pour que soit dépiautée afin qu'il n'y ait pas de geste inutile. Par la suite, le petit Jacques, donc, qui est un fils unique, va avoir les défauts d'un fils unique. Quels sont les défauts d'un fils unique moi-même, fils de fils unique, petit-fils de fils unique? Il y a ce désir permanent d'être aimé. Je peux en témoigner. Et donc, sans ce désir permanent d'être aimé, il y a la volonté de plaire. Et qui dit plaire à tout le monde. Et c'est ce qui explique, chez Jacques Chirac, cette capacité parfaitement convulsive de passer d'une opinion à une autre, d'un costume à un autre, sans jamais, finalement, se sentir gêné par ce basculement psychologique. Mais il faut préciser également que c'est un garçon soumis. Un garçon soumis à son père, le rude François Chirac, un homme difficile de caractère, souvent absent, ce qu'on peut appeler, dans le langage rude de l'aristocratie, un parvenu. Et oui, car François Chirac est en fait le fils d'un instituteur, et il a commencé sa carrière comme employé de banque à Clermont-Ferrand, mais rapidement, il monte à Paris où il devient administrateur de société. Il est malheureusement très absent, mais il dirige son fils d'une poigne de fer. Et ce fils, comme il le trouve assez peu viril, il l'envoie sur un cargo. Cargo qui part sur les flots. Et comme nous sommes en été, nous sommes à Dunkerque, en 1956, le petit Chirac ne veut pas débarquer. Il veut rester en mer, devenir capitaine. Que fait le père ? Il va le chercher, il le force à descendre. On voit donc qu'on a affaire à un caractère d'insoumis, mais d'insoumis docile. C'est un cas assez complexe au niveau conflictuel, puisque malgré une volonté de devenir explorateur, de devenir capitaine au long cours, de devenir archéologue, tous ces désirs fondamentaux du jeune Chirac, de Jackie, comme l'appelle sa maman, sont contredits, sont compromis, sont annihilés par un père difficile. Cette affaire du cargo révèle bien le personnage et permet de mieux comprendre pourquoi plus tard il deviendra explorateur, mais autrement. Que va-t-il explorer? Eh bien, il va explorer quelque chose qu'il ne connaît pas, mais qu'il convoite énormément, c'est ce qu'on peut appeler la famille Chaudron de Courcelles. La famille Chaudron de Courcelles, c'est un monde en soi. Un monde en soi pour un petit-fils d'instituteur de Corrèze. Et la famille Chaudron de Courcelles, dont il épousera la fille, Bernadette, en 1956, à l'église Sainte-Clotilde. Dans la petite annexe, malheureusement, car les parents de la famille n'ont pas voulu qu'il se marie dans la grande chapelle, c'est une manière de l'humilier, de lui faire sentir quel était son rang, et de lui répéter régulièrement « Jacques, vous n'auriez jamais dû rentrer dans la famille. » Eh bien, Chirac va essayer de combiner cette exploration d'un monde qu'il ne connaît pas, tout en essayant en permanence, finalement, de s'y affronter. Donc il cherche à la fois la particule et l'argent que représente la famille Chaudron de Courcelles, et simultanément, il la provoque par une attitude extrêmement violente, avec des mots qu'on a cités, prononcés à l'occasion de la rencontre avec Margaret Thatcher. « Qu'est-ce qu'elle me veut, la ménagère? Que je mette mes couilles sur un plateau ?» Voilà une expression qui ne départ pas dans la bouche de Jacques Chirac, car en effet, on voit bien que c'est par cela qu'il s'affirme, par le langage, par la violence, et je crois que c'est un des éléments importants de sa personnalité. Alors, pour conclure, c'est un personnage qui a malgré tout, bien que on puisse trouver des dimensions schizophréniques dans sa capacité à mentir, mais le mensonge, que serait la vie sans lui, comme disait Anatole France, à peu près. Giscard, pour parler de sa prépension à pouvoir mentir, disait par exemple, vous prenez Chirac devant un pot de confiture. Il a les mains dans la confiture, la bouche pleine de confiture. Le pot est devant lui, il est ouvert, le couvercle est posé. Et vous lui dites, mais Jacques, vous mangez de la confiture? Que vous répond Chirac? Il dit, non, 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 monsieur le président, je ne mange pas de confiture. Eh bien, cette capacité en permanence, fort bien résumée par Giscard, c'est le fondamental. Il n'y a pas de mensonge, car il n'y a pas de contre-vérité. C'est une autre vérité, c'est ailleurs, c'est une autre facette du monde, c'est un univers parallèle où il n'y aurait pas de confiture, pas de pot de confiture, pas de traces sur les doigts, et c'est vrai aussi, quelque part, sous les vêtements nous sommes nus, et sur les doigts de confiture, il n'y a pas de confiture non plus, les atomes ne se touchent pas. Je crois qu'on peut résumer ainsi la personnalité de Jacques Chirac. Quant à savoir s'il est responsable pénalement, je pense qu'on peut répondre oui, l'homme est sain d'esprit, malgré des tendances à la schizophrénie et à la paranoïa, mais qui ne l'est pas. Sa vision de la vérité n'est pas très éloignée de certains confrères du barreau que je connais. Et donc, finalement, je dirais que cet homme a de fortes chances de pouvoir se réhabiliter. La famille est aisée, peut lui payer un infirmier de manière permanente. Et je conclurai ainsi en disant que, sans doute, la possibilité non seulement de sa réhabilitation, mais de sa réinsertion sociale sont fortes. Et je demande à ce qu'il en soit tenu compte dans ce procès.
Merci beaucoup, docteur Letellier, de gagner la salle.
Et nous allons aborder le dixième dossier, la dixième affaire, celle de l'affaire des faux électeurs. Et nous allons demander aux témoins de bien vouloir venir jusqu'à la barre, monsieur Henri Cueco. Monsieur Henri Cueco.
Monsieur le Président.
Vous allez prêter serment, jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ».
C'est fait.
Je le jure.
C'est fait.
Monsieur Henri Cueco, vous êtes veuf.
Depuis quand? Ça alors, quelle nouvelle! Bon. Vous voulez me déstabiliser, monsieur le président.
Vous êtes agriculteur.
Enfin, je l'ai été, oui. Plus précisément, je ne suis pas non-agriculteur. Pas tout à fait la même chose.
Bien, vous demeurez à Meymac?
En principe, oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire Meymac?
C'est une petite ville avec un clocher, des rues qui montent et les mêmes rues qui descendent quand on les prend dans l'autre sens. C'est très bien.
Est-ce que vous diriez que c'est un village caractéristique de la Corrèze?
Ah, absolument.
Monsieur Henri Cueco, voici les faits. Une plainte a été déposée pour fraude électorale contre Jacques Chirac concernant les élections municipales de Paris en 1989.
Et alors ? Je ne suis pas au courant, mais rien de tout ça ne me choque. Des vrais électeurs, c'est des électeurs qui vous sont favorables. Des faux électeurs, à plus forte raison, alors je vois pas ce que ça change. En tout cas, moi, je ne suis pas un faux électeur. Vous me voyez, je suis en vrai. Eh bien, quand je vote, où que ce soit que je vote, c'est en vrai. Je ne me vois pas en faux. Non, vraiment.
Monsieur Cueco, vous nous avez dit habiter à Meymac, en Corrèze, et vous avez fait une description très convaincante de cette petite ville. Mais quelle est votre adresse précise ?
Ah, eh bien, écoutez, en ce moment, mon adresse n'est pas très précise. J'ai tendance à circuler, c'est selon mes emplois, qui ne sont pas fictifs. D'ailleurs, on m'avait écrit sur un papier ce que je devais répondre. Il y a écrit « emploi fictif ». Non.
Est-ce que vous n'avez pas exercé la profession d'électeur professionnel, monsieur Cueco ?
Ah, attendez. Non.
Pourtant, on vous connaît plusieurs adresses, monsieur Cueco.
Ben, ce sont des adresses de proximité. Lorsque je dois voter dans le troisième, autant avoir un logement dans le troisième.
C'est très juste, monsieur Cueco. Êtes-vous électeur en Corrèze aussi ?
Pas en ce moment.
Mais votre femme, oui.
Comment ma femme ? Elle va mieux, alors.
Pour toutes les élections, oui. Elle subit le phénomène chevènement.
C'est quoi, madame ?
La résurrection, monsieur Cueco, la résurrection.
Merci pour lui.
Êtes-vous, oui ou non, un faux électeur ?
Ah non, un vrai. Où que je passe, je vote vraiment. Dites-moi ce que ça pourrait être un faux électeur. Non, je ne comprends pas la question.
Bien, alors y a-t-il des observations, madame le procureur, des questions ?
Oui, monsieur Cueco, vous voulez dire que vous avez participé à un genre de république bananière du fin fond de votre Corrèze ?
Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais que, dans l'ensemble, c'est pas vraiment une dictature, sinon une dictature améliorée par la corruption.
La défense ?
Oui, monsieur Cueco, vous nous avez indiqué que vous ne pouviez pas être un faux électeur. Et je crois que vous avez sollicité de la Cour qu'on vous explique ce qu'était un faux électeur. Monsieur le Président, vous a-t-il donné une réponse ? Ou madame le procureur, vous a-t-elle donné une réponse ?
Non.
On peut donc en conclure que le concept de faux électeur n'existe pas.
Le concept, non.
Bien. Donc.
Très bien. Pour le réquisitoire, la parole est à madame le procureur.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, nous avons à juger aujourd'hui un homme par contumace. Un homme chargé des plus hautes responsabilités de l'État et qui ne prend pas les siennes en étant présent ici et maintenant, nunc et hodie. Mesdames et messieurs, c'est pas de la délinquance, c'est du Zola pour fête patronale. Je vous demande, monsieur le Président, mesdames et messieurs du jury, si là, on ne tombe pas un peu dans le côté rapia d'un couple décrit dans les romans du 19e siècle. Et rien ne se perd, rien ne se perd dans la boîte aux biscuits, puisque madame ramasse même les pièces jaunes. Alors, condamnons-le à 115 ans de réclusion criminelle pour avoir le temps de méditer sur cette affaire, de compter euro après euro, centime d'euro après euro, tous les sous qui lui sont passés par la main. Et demandons au bon docteur Grubler, qui sait si faire de grands miracles en matière de santé, de le préserver encore 115 ans au début de son incarcération, afin qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa peine.
Merci. Alors, la défense a la parole. Maître Moineau.
Mesdames et messieurs, messieurs des renseignements généraux, jusqu'à présent très discrets,
mais qui ont pris des notes très précises qui serviront à nous distraire quand nous nous retrouverons à Fleury-Mérogis. Vous avez assisté à un procès, mais c'est un procès en réalité médiatique, car vous l'avez bien vu, dès que l'on va dans les détails, eh bien la réalité judiciaire, vous en avez eu un aperçu, rien ne transparaît. Et bien sûr, rien ne transparaît parce qu'il n'y a rien au dossier. C'est la phrase consacrée, je la prononce ce soir. Qu'est-ce qu'un procès médiatique? Eh bien, un procès médiatique, c'est celui de la rumeur. Ce soir, nous avons considéré que Chirac était super voleur. Il y a 20 ans, on aurait jugé ici, dans les mêmes circonstances, facho Chirac. Il y a 10 ans, on aurait jugé crétin Chirac. Alors, revenons un petit peu en arrière pour voir quelle est la valeur de ces jugements. En 1974, je me souviens, ma mère me disait, j'étais pas grand à l'époque, Chirac n'est pas nazi, mais il est quand même plutôt de ce côté-là. Ça a été mon éducation politique, elle était mitterrandienne, elle l'est toujours d'ailleurs. Elle ne se remet pas de sa mort. C'est dire que j'ai un passif lourd pour défendre Chirac ce soir. Alors, Chirac et l'argent, dans ce procès médiatique, on a vu les médias se trompent régulièrement, se sont toujours trompés, mais il faut quand même répondre. Alors voilà, super voleur, le gentleman carambouilleur, eh bien il a volé la vedette à facho Chirac, à crétin Chirac, à super menteur. Demain, on jugera sans doute macho Chirac, mégalo chichi, super saligo, peut-être mieux super salopio, parce que ça fera une double allitération en S et en P. Et me voilà sur l'argent. L'argent qui rend fou, disait Mitterrand, sans doute en pensant à son ami Roger Patrice Pelat ou au nouvel appartement de Jack Lang, place des Vosges. Cet argent qui, avec Christian de la Malène, circulait à Paris avant Jacques Chirac, qui, avec Gaston Defer, naviguait à Marseille, qui, avec Pierre Mauroy, fleurissait à Lille, et que l'on trouve dans toutes les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes de France, et dans les communautés urbaines, les départements et les régions. Donc, sur le sujet l'argent et la politique en France, nous procéderons à l'étude d'un cas particulier, Chirac-Jacques, qui nous intéresse d'autant plus ce soir que nous sommes 80% quand même à l'avoir élu président. Alors, ces problèmes, à titre personnel, Chirac les a réglés une fois pour toutes, en épousant Bernadette Chaudron de Courcelles, richement dotée, plutôt qu'une quelconque Guilaine écuelle des Batignolles. Pour Chirac, l'argent, c'est pour la politique. Mais c'est vrai que pour lui, la politique, c'est toute sa vie. Alors, examinez sa vie et regardez la vôtre. Et demandez-vous si ces tribunaux ne sont pas des tribunaux de la morale. Parce qu'il est un petit peu énervant, ce Jacques Chirac, quand même. Secrétaire d'État à 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 30 ans? Député, puis trois fois ministre. Premier ministre à 42 ans, monsieur l'assesseur. Maire de Paris à 45 ans, madame le procureur. Président de la République à 62 ans et à 69 ans, monsieur le président. Lui a bénéficié d'un appartement de 1000 mètres carrés au cœur de Paris, sans se fader les agents immobiliers, ni la lecture de Paris Boum Boum, Dieu sait que c'est pénible, ou du particulier à particulier, c'est encore pire. Il a joui, messieurs les membres du jury, des charmes de 207 femmes, pour un fabuleux plaisir de 621 minutes. Il a voyagé 261 fois à l'étranger, sans jamais avoir été victime du surbooking. Ce qui lui donne suffisamment de miles pour faire 39 fois le tour de la Terre. Il a des photos souvenirs avec George Bush. Comme vous, c'est vrai, comme vous. Mais ces photos à lui ne viennent pas du magic Photoshop de l'aéroport. C'est agaçant, je le reconnais. Heureusement, ce n'est pas un de vos proches, parce que le succès de ses amis est bien plus pénible que celui de ses ennemis. Mais attention, Jacques Chirac n'est pas arrivé là par miracle. Il a serré dans sa vie 280 337 mains, dont 83% étaient moites. Il a embrassé 23 345 retraités, dont 21 250 venaient de manger leur chocolat de Noël. Il a aussi embrassé le culte de sa femme et caressé le cul de plusieurs milliers de vaches en les appelant par leur prénom, et sa femme aussi. Alors les hommes politiques travaillent, ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir, ils travaillent pendant les week-ends et les vacances. Ils l'ont choisi, ils l'assument. Mais cette activité, il lui faut de l'argent. Il lui faut beaucoup d'argent. L'argent pour la politique, il en faut. Il y a les cars, les militants, les tracts, les brochures. À l'occasion des fêtes de Noël,
Quant au champ, inonde vos boîtes aux lettres de promotion sur le foie gras de Hongrie. Ça lui coûte en frais d'impression et de distribution à Auchan environ 1 euro par prospect. Eh bien, les prospects de la démocratie, les électeurs, bénéficient d'un budget alloué aux partis politiques qui n'est pas supérieur et qui est aussi d'un euro par prospect démocratique. Les Français ne veulent pas payer le prix de la démocratie. Ils préfèrent plus de tarama sur leur canapé de Noël et moins de débats républicains. Et ce sont ces Thénardier franchouillards qui prétendent reprocher aux causettes de la politique la collecte des moyens nécessaires au fonctionnement régulier de la démocratie et des institutions. Jacques Chirac donne de grandes réceptions, justifiées par ses hautes fonctions. Et eux, les Thénardier, ils comptent les petits fours et les papiers des petits fours. Et ils comparent le nombre d'olives livrées le matin avec le nombre de noyaux recrachés le soir. Jacques Chirac, oui, c'est vrai, il mange énormément, peut-être pas 4000 francs, mais il mange, il invite. Et tous, ils mangent ensemble, avec chaleur et générosité. Et eux, les Thénardier, tapis dans les cabinets, demandent à la justice de peser ses excréments. Eh bien, si c'est là leur plaisir, il y a pour eux, à la sortie, un seau, des gants et un pèse-caca. Quant à nous, nous autres, regardons la réalité en face. Oui, Jacques Chirac est coupable. Coupable d'être un homme politique et non un froid technicien incapable de gagner les élections. Ce n'est pas Barre, ni Balladur, ni Delors, ni Aubry. Oui, Jacques Chirac a fait sienne la maxime de Jean-Baptiste Botulle, le grand Jean-Baptiste Botulle, qui disait que la transparence est à la démocratie ce que la pornographie est au sentiment. Oui, Jacques Chirac incarne l'énergie de la volonté. Il peut dire tout et son contraire, cacher l'essentiel et montrer ses couilles aux journalistes pour leur montrer qu'il n'y a pas toujours loin du mythe des couilles à la réalité des testicules. Ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit quand même. Cet homme politique est sans équivalent. Il y aura dans la Ve République deux périodes, avant JC et après JC. Devant le mystère qu'il incarne, nous devons en appeler à la dernière forme de sacré qui reste dans notre société, l'onction du suffrage universel. Vous pouvez le juger. Vous devez le juger, mais je demande alors que tous les Français de plus de 18 ans soient convoqués comme jurés pour rendre une décision juridiquement et politiquement incontestable. Vive la République, vive la France !
Alors nous n'allons pas attendre
pour prendre notre décision. Aucune démagogie ne nous arrête ce soir. Et vous allez pouvoir juger. Vous allez pouvoir juger immédiatement l'accusé. Nous avons disposé dans la cabine qui est derrière vous un applaudimètre. C'est un appareil qui, comme vous l'avez déjà compris peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, permet de mesurer l'intensité des applaudissements. Et nous avons une équipe de techniciens en présence d'un huissier qui sont dans cette cabine obscure que vous ne voyez pas et qui sont donc prêts à opérer en écoutant vos applaudissements ou vos sifflets. À la question suivante. Vous applaudissez immédiatement après que j'ai énoncé la question.
Ça soit bien clair.
Attention. La question est la suivante. L'accusé est-il sincère ?
Trois décibels.
Deuxième question. L'accusé se fout-il de nous ?
Voilà, c'était le tribunal des condamnés d'avance et c'était il y a six ans, le 5 mai 2003. Merci Henri Cueco, Gérard Mordilla, Lim, Bertrand Roté, Frédéric Pagès, Huguette Gréco, Hervé Liffrand, Jean-Bernard Pouy, Christophe Clerc, Dominique Fonfray, Hervé Letellier, Marie Borowski et pardon à ceux que nous oublions. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam, c'est Coyim Guyenne et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission. Agnès Lebot nous assiste et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. En vous promenant sur là-bas.org, sur le site là-bas.org, vous pouvez retrouver un certain nombre d'autres séances, audiences du tribunal des condamnés d'avance. Le procès d'un certain Sarkozy, celui d'un certain BHL. Vous pouvez, en vous promenant sur ce site, trouver la façon dont ces personnages très importants ont été odieusement maltraité devant ce tribunal. Il est 15h59 minutes et 20 secondes sur France Inter.
Dis-moi, oui, comment tu fais pour être au top?
Entraînement intensif avec coach personnel.
Mais non, je voulais parler de ton épargne, tes placements sûrs qui rapportent chaque année.
Pour ça aussi, j'ai un coach. La MACSF et son contrat d'assurance vie RES en euros pour les professionnels de la santé et leurs proches.
RES?
Oui, un contrat qui n'est pas dopé auto-promo et qui se classe en tête depuis plus de 40 ans.
40 ans?
L'épargne, c'est une course de fond. C'est sur la durée qu'on reconnaît les meilleurs.
Et ton coach, il est dispo?
Toujours, au 3233 ou sur macsf.fr.
MACSF.
Notre vocation, c'est vous.
16h sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous, les infos, Dominique Delaroy. Salut.
Y a-t-il un lien de cause à effet entre la grippe A et le cas probable de syndrome de Guillain-Barré annoncé hier soir par le ministère de la Santé? Eh bien, il est très difficile de l'établir, expliquait Roselyne Bachelot lors d'une séance au Sénat. La personne concernée avait un syndrome grippal avant de se faire vacciner. Or, vous savez que la principale cause du Guillain-Barré, c'est précisément la grippe, a expliqué la ministre de la Santé. De plus, le syndrome survient en général plus tard que pour le cas en question, 15 jours à 3 semaines. A noté Roselyne Bachelot. Des analyses, des investigations médicales sont en cours pour vérifier tout cela. Le syndrome de Guillain-Barré est une affection neurologique qui peut se traduire par une paralysie rapide. Et toujours à propos de la grippe AH1N1, une école maternelle de Limoux dans l'Aude a été fermée pour une semaine en raison d'une suspicion de cas groupés. Une quinzaine d'élèves de l'école Saint-Exupéry ont présenté hier soir des symptômes grippaux et de fièvre. Des prélèvements ont été opérés pour analyse. Un fric-frac chez Chaumet, le joaillier de la place Vendôme à Paris. Deux hommes encagoulés et armés se sont introduits ce matin vers 10h dans l'atelier situé au troisième étage. Ils ont forcé les employés à leur remettre des pierres précieuses et ont pu s'enfuir sans encombre. Le montant du vol n'a pas encore été précisé. La direction du centre Leclerc de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône a été déboutée de son référé contre 13 de ses salariés pour entrave au travail. Depuis lundi, une vingtaine d'entre eux bloquent l'un des accès au parking du magasin pour dénoncer des pratiques de harcèlement qui ont conduit 40% du personnel à la démission depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 2008. Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi de l'affaire, a décidé de nommer deux médiateurs aux frais du centre Leclerc. Une première réunion est prévue lundi. En Russie, 35 personnes sont portées disparues après des explosions dans un dépôt d'armes. Plus de 3000 personnes auraient été évacuées. On n'en sait pas plus pour le moment. Premier jour de la tournée de Barack Obama en Asie, à Tokyo, le président américain a affirmé que les États-Unis étaient une puissance du Pacifique et il a promis de renforcer l'engagement de son pays dans la région. Demain, Barack Obama s'envolera pour Singapour où il participera au Forum économique Asie-Pacifique avant d'entamer dimanche une visite de 3 jours. En Chine. Ambiance électrique au Caire à la veille d'un match décisif entre l'Égypte et l'Algérie pour la qualification au Mondial 2010 de football. Hier soir, le bus de la sélection algérienne a été caillassé au Caire. 3 joueurs ont été blessés. Ce matin, des journaux égyptiens ont accusé les Algériens d'avoir mis l'attaque en scène alors que la presse algérienne, elle, parle de guet-apens. La FIFA a demandé à la fédération égyptienne de prendre toutes les mesures de sécurité afin que la rencontre ait lieu Plusieurs milliers de policiers anti-émeutes seront déployés demain aux abords du stade et des policiers civils se mêleront à la foule. Et puis les mémoires de Jacques Chirac se vendent bien, elles sont même parties en flèche avec 15 000 exemplaires vendus chaque jour aux libraires depuis la sortie du livre le 5 novembre. L'ouvrage avait été tiré à 260 000 exemplaires, il a dû être réimprimé 3 fois.
France Inter et le Théâtre National de Marseille La Criée présentent, du 17 au 29 novembre, La Nuit des Rois de William Shakespeare, mise en scène par Jean-Louis Benoît, avec notamment Nathalie Richard et Dominique Valadier. Déguisement, tu es une perfidie. Je ne suis pas ce que je suis. Retrouvez La Nuit des Rois dans les émissions de France Inter.
Les liaisons heureuses. Colombe Schneck.
Teresa Crémisi est éditrice. Son métier, c'est de donner de soi aux auteurs qu'elle publie. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu pour offrir tant aux autres? Écoutez-la, c'est samedi à 16h30 sur France Inter dans les Liaisons Heureuses.
France Inter, la différence.
Il est 16h04, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est la journée de la gentillesse, on voit ça dans certains médias, et ça a été décrété, je ne sais pas par qui, mais en tout cas c'est une très bonne idée, et la gentillesse, elle existe dans la musique bien sûr, à côté d'autres qualités ou défauts d'ailleurs. Bon, la gentillesse, elle était vraiment très présente dans certains chœurs de musiciens, par exemple celui de Félix Mendelssohn, qui, on le sait, a aidé des musiciens un peu moins à l'aise que lui, notamment Robert Schumann, qui avait du mal à diriger les orchestres, et Mendelssohn a prêté main forte, si j'ose dire. De nombreuses fois, on sait qu'il était tout à fait généreux. Voilà, un gentil, un vrai gentil, et donc honneur à Mendelssohn, et à son tout premier concerto pour violon et orchestre, écrit à l'âge de 13 ans, Allegro. Thank you. Allegro final du premier concerto pour violon et orchestre de Félix Mendelssohn par Jean-Jacques Kantorov, qui dirigeait en même temps l'orchestre d'Auvergne. Autre personnage gentil, je rappelle que c'est la journée de la gentillesse dans le monde aujourd'hui, Franz Liszt qui pouvait pourtant déchaîner des tonnerres de notes et aussi des tonnerres d'applaudissements, qui était un séducteur né et qui avait un succès absolument prodigieux un peu partout, aussi bien des succès sentimentaux que des succès musicaux. Et pourtant, il était extrêmement gentil. Il l'a été, par exemple, avec Richard Wagner, qui il était beaucoup moins, on le sait, et Franz Liszt l'a nourri longtemps.